Le président américain Donald Trump a assuré aujourd'hui que la pression militaire et économique exercée par les États-Unis sur l'Iran portait ses fruits, affirmant qu'une grande victoire était désormais proche. Un envoyé du Conseil de la paix reconnaît des lacunes dans la mise en œuvre après l'acceptation par le Hamas du plan de désarmement. L'armée de l'air israélienne a bombardé hier un site du groupe terroriste dans le nord de la bande de Gaza qui, selon Tsahal, était situé à proximité d'un hôpital et d'une école. Et puis enfin, en Belgique, à Bruxelles, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, Boris Dilliès, a convoqué un conseil régional de sécurité pour faire face aux fusillades à 18h aujourd'hui, face à la recrudescence de violences observées ces derniers jours à Saint-Gilles. Le président américain Donald Trump a assuré aujourd'hui que la pression militaire et économique exercée par les États-Unis sur l'Iran portait ses fruits, affirmant qu'une grande victoire était désormais proche. « Nous allons remporter une grande victoire très bientôt », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'animateur conservateur Glenn Beck. Donald Trump a également affirmé que le détroit d'Hormuz, fortement perturbé par les forces iraniennes ces dernières semaines, était, je cite, « désormais ouvert ». Selon lui, de nombreux navires y transitent à nouveau et les mines ont été retirées. Le président américain n'a toutefois fourni aucun élément permettant de vérifier immédiatement ces affirmations. Le chef de la Maison-Blanche a par ailleurs réaffirmé que l'objectif central de Washington restait d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. « Nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire », a-t-il insisté, estimant que cette question représentait 99,9% de l'enjeu actuel avec la République islamique. Et puis toujours à propos de Donald Trump, le président américain affirme ne pas croire que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Mojtaba Khamenei, soit mort. Je ne pense pas qu'il soit mort. Il a été très gravement blessé. Le côté gauche de son corps, le bras, la jambe, tout. Il a été très gravement blessé. Mais je ne pense pas qu'il soit mort, a déclaré Donald Trump. Rappelons que le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, qui a pris la relève après que son père a été tué lors des frappes américano-israéliennes qui ont déclenché la guerre en février, n'a plus été vu en public depuis, ce qui a suscité de nombreuses spéculations quant à son sort. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a lui également pris la parole sur la situation. Il a affirmé avoir évoqué trois approches possibles concernant l'Iran avec Donald Trump lors de leur rencontre en juillet à Washington. La diplomatie, l'action militaire et ce qu'il décrit comme un resserrement du siège sur Téhéran. Il a associé cette troisième option à la campagne de sanctions récemment élargie par Washington, ajoutant qu'il doute de la possibilité d'un accord avec, je cite, c'est sauvage en Iran. J'ai discuté avec le président Trump il y a plusieurs semaines à la Maison Blanche dans le bureau ovale. Nous avons évoqué trois options contre l'Iran, a déclaré Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée par son cabinet, extraite d'un discours en hébreu prononcé hier soir lors d'un événement à Jérusalem. Et puis on parle toujours des États-Unis, de l'Iran et d'Israël. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a rencontré dimanche à Tel Aviv le chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, le général Kenneth Wilsbach. Le commandant de l'armée de l'air israélienne, le général Omer Tischler, participait également à cette discussion. Les responsables militaires ont examiner la situation sécuritaire régionale, en particulier la menace iranienne, ainsi que les enseignements tirés de leur campagne conjointe menée au début de l'année 2026. La réunion a également porté sur les futures modalités de coopération entre les armées de l'air israéliennes et américaines, alors que Washington privilégie désormais les sanctions et la pression économique sur Téhéran. La visite de Kenneth Wilsbach est considérée comme inhabituelle, ce type de déplacement étant généralement effectué par le commandant du CENTCOM ou par le responsable des forces aériennes américaines au Moyen-Orient. L'envoyé spécial du Conseil de la paix pour Gaza a fait le point devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur l'état d'avancement des efforts menés par cet organisme placé sous l'égide des États-Unis pour reconstruire Gaza, soulignant l'acceptation par le Hamas d'un plan de désarmement. Il a toutefois reconnu que les progrès sont depuis lors au point mort. Rappelons que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est prononcé contre cette proposition, arguant qu'elle ne conduirait pas réellement au désarmement du groupe terroriste et que Jérusalem ne se conformerait donc pas au retrait progressif de Gaza qui lui sont imposés. L'envoyé du Conseil de la paix, Nikolaï Mladenov, a lui fait valoir devant le Conseil de sécurité qu'il n'est pas demandé à Israël d'accepter la feuille de route pour le désarmement, mais plutôt de réaffirmer les engagements qu'il a pris dans le cadre du plan de paix en 20 points pour Gaza du président américain Donald Trump, que Benjamin Netanyahu a accepté en septembre. L'armée de l'air israélienne a bombardé hier un site du Hamas dans le nord de la bande de Gaza qui, selon Tsahal, était situé à proximité d'un hôpital et d'une école. Selon l'armée, cette installation située à Jabalia servait au Hamas de poste d'embuscade et de lieu de stockage d'armes. Tsahal a affirmé que ces derniers temps, le Hamas y planifiait des attaques et s'efforçait de rétablir les capacités du groupe terroriste. La frappe a éliminé plusieurs membres du Hamas, selon l'armée. L'armée qui précise que cette position d'embuscade était située à environ 50 mètres de la ligne jaune militaire dans la zone et qu'elle constituait donc une menace pour les troupes de l'armée israélienne opérant dans la région. Eviatar David, un ancien otage du Hamas à Gaza, a raconté à CNN les conditions de détention qu'il a subies pendant 738 jours aux mains du groupe terroriste. Près d'un an après sa libération, l'ancien otage israélien affirme souffrir encore de cauchemars, de flashbacks et d'un état de stress post-traumatique. Enlevé à l'âge de 22 ans lors du festival Nova le 7 octobre 2023, il avait été emmené à Gaza avec son ami d'enfance Guy Gilboa Dalal. Deux autres membres de leur groupe avaient été tués pendant l'attaque. Les deux hommes ont passé la majeure partie de leur captivité ensemble dans des tunnels. Eviatar David figurait parmi les 20 derniers otages israéliens libérés vivants le 13 octobre 2025 dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis. L'ancien otage a décrit une famine extrême particulièrement intense pendant les trois mois précédant la diffusion d'une vidéo de propagande du Hamas en août 2025. Au-delà de la sensation physique d'avoir toujours faim, il y avait la peur de ne pas savoir si nous mangerions dans une heure, le lendemain ou deux jours plus tard, et de mourir de faim, a-t-il témoigné. En Europe maintenant, enfin en tout cas sur le continent européen, le Premier ministre britannique Andy Burnham s'apprête à durcir la politique de son gouvernement à l'égard des implantations israéliennes en Judée-Samarie avec un possible embargo commercial total sur les produits qui en sont issus. C'est ce que rapportent les médias britanniques. La mesure pourrait être annoncée dans les prochaines semaines. Selon le Télégraphe, le gouvernement étudie cette interdiction en réponse notamment au projet israélien de construction dans la zone E1 à l'est de Jérusalem. Le Times of Israel de son côté affirme que Andy Burnham prépare de nouvelles sanctions robustes contre les implantations dans le cadre d'une ligne plus ferme envers Israël que celle suivie par son prédécesseur Keir Starmer. Ces mesures pourraient également viser individuellement certains habitants des implantations ainsi que des ministres israéliens issus de la droite radicale. Aucun détail définitif n'a toutefois encore été annoncé par le gouvernement britannique. Le projet suscite déjà des inquiétudes au sein du Labour Friends of Israel, organisation pro-israélienne liée au parti travailliste. Celle-ci estime qu'il serait en pratique impossible de distinguer systématiquement les produits provenant des implantations de ceux issus du reste d'Israël. Une interdiction ciblée risquerait ainsi, selon elle, de se transformer de facto en boycott commercial de l'ensemble du pays. Direction la Grèce maintenant, où un chauffeur de taxi de 38 ans a été arrêté aujourd'hui à Athènes, soupçonné d'avoir menacé une famille de touristes israéliens et de l'avoir contrainte à lui remettre 600 euros à l'issue d'une course entre l'aéroport international de la capitale grecque et un hôtel du centre-ville. Selon la police grecque et plusieurs médias locaux, les faits se sont produits dans la nuit du 13 août. À leur arrivée devant l'hôtel, le chauffeur aurait menacé à plusieurs reprises les membres de la famille de violence et les aurait empêchés de sortir du véhicule ainsi que de récupérer leurs bagages placé dans le coffre tant qu'il ne lui versait pas la somme réclamée. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a rencontré à Moscou des responsables des services de renseignement russes. C'est ce qui a été confirmé par le Kremlin aujourd'hui. Le porte-parole de la présidente russe, Dmitri Peskov, a précisé que Vladimir Poutine n'avait pas participé à cette rencontre, mais qu'il avait été informé de ses conclusions. Aucun détail n'a été communiqué sur les contenus de ces échanges. Dmitri Peskov a également estimé qu'il était encore trop tôt pour déterminer si ces contacts entre les services de renseignement des deux pays pourrait contribuer à sortir les relations russo-américaines de leur profonde crise. John Ratcliffe aurait rejoint Moscou à bord d'un avion de transport militaire américain C-17 avant de quitter la capitale russe dans la soirée. Il s'agit de la première visite connue à Washington d'un directeur de la CIA depuis celle de William Burns en novembre 2021, 3 mois avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Au moins 95 personnes ont été tuées, 384 voyageurs sont toujours portés disparus après de violentes crues soudaines qui ont frappé aujourd'hui la frontière entre le Népal et le Tibet, selon les derniers bilans disponibles. La catastrophe a particulièrement touché le district népalais de Rasuwa, où les eaux de la rivière Botekoshi ont emporté des habitants, des routes, des ponts et des installations hydroélectriques. Le bilan des disparus reste pour l'heure inchangé par rapport aux chiffres rapportés par Cannes. Le Népal Tourisme Board recense donc 384 personnes dont il est sans nouvelles, parmi lesquelles 291 étrangers et 93 népalais. Il s'agit toutefois d'une liste préliminaire dont les autorités cherchent encore à vérifier la situation. Parmi les étrangers figurent notamment 105 ressortissants indiens, 12 britanniques et 3 américains. Et on termine ce journal avec l'actualité en Belgique. Le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Boris Dilliès, a convoqué un conseil régional de sécurité pour faire face aux fusillades. Face à la recrudescence de violences observées ces derniers jours à Saint-Gilles, le ministre-président Boris Dilliès a décidé de convoquer le conseil régional de sécurité en fin d'après-midi. La réunion se tient actuellement en présence du ministre fédéral de l'Intérieur, Bernard Quintin, du procureur du roi de Bruxelles, Julien Moinil, de la commissaire national aux drogues ainsi que des bourgmestres et des représentants des zones de police concernées. Les trafics de drogue sont un fléau et nous devons tout mettre en œuvre pour frapper le trafic à la racine. Cela passe par davantage de moyens humains et matériels sur le terrain, mais aussi par une meilleure coordination entre tous les acteurs concernés. C'est ce qu'a déclaré Boris Dilliès, qui a insisté sur l'objectif de combattre ce problème sur le long terme et totalement. Il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle, mais d'un travail de longue haleine. Nous voulons éteindre le système dans son ensemble. Nous ne laisserons aucun quartier de côté et Bruxelles ne sera pas abandonnée. C'était les mots de Boris Dilliès avant ce conseil régional de sécurité. L'objectif de la réunion est de renforcer les moyens humains et matériels sur le terrain et d'assurer une coordination plus solide dans la durée. Ces nouvelles mesures viendront s'ajouter à celles qui ont déjà été prises ces dernières semaines pour s'attaquer au trafic de drogue à Bruxelles.